savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Savoir Plus. Cette semaine, dans votre magazine, on s'intéresse tout d'abord à la manière dont les communautés de communes et les communes s'organisent face à la crise du coronavirus, qui possède de multiples dimensions, sanitaires bien sûr, mais aussi sociales et économiques. Exemple aujourd'hui avec la communauté d'agglomération Flandre-Lys, qui possède la particularité de regrouper 8 communes sur 2 départements, 4 dans le Nord, Éther, Merville, Averskerk et La Gorgue, et 4 dans le Pas-de-Calais, Fleurbaie, L'Étrême, Laventie et Sailly-sur-la-Lys. Une situation peu banale pour un territoire représentant un peu plus de 40 000 habitants. Julien Maille de Radio Plus a interviewé Bruno Ficheux, le président de la communauté de communes Flandre-Lys, également maire d'Éther, à propos de la gestion de cette crise sans précédent.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Alors Bruno Ficheux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire d'Éther et président de la communauté de communes Flandre-Lys qui regroupe les 8 communes de Éther, Merville, Averskerk et La Gorgue dans le Nord et de Fleurbaie, L'Étrême, Laventie et Sailly-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Une communauté de communes qui touche environ 40 000 habitants. Et depuis le début de cette crise sanitaire, on imagine que cette double casquette de maire et de président de communauté de communes vous fait courir un peu partout.
Oui, ça fait courir un peu partout et ça occupe surtout une grande partie de mon temps. Mais c'est bien la moindre des choses hein, pour des élus de proximité, que sont les élus des communautés de communes ou les élus des municipalités. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on essaie de s'organiser au mieux. Comme pour les habitants, bien évidemment, pour nous, c'est une situation inédite. Il a fallu bien évidemment qu'on s'adapte.
Alors comment se fait justement la liaison entre les 8 communes du territoire ? Est-ce que vous avez justement régulièrement des échanges avec les maires et par quel biais ?
Oui, alors c'est vrai que pour nous, c'est assez facile, puisque comme vous l'avez dit, nous ne sommes que 8 communes, nous représentons 41 000 habitants, et donc la circulation de l'information est extrêmement aisée. Hein. Il suffit d'appeler ses 7 collègues, et puis finalement, vous avez déjà fait le tour de votre intercommunalité. Donc on communique entre nous essentiellement par message, hein, SMS, par appel téléphonique directement ou par mail, et on arrive donc à se transmettre les informations, à essayer de gérer un petit peu la crise de la même manière et surtout de développer entre nous des solidarités et de reprendre les bonnes idées des uns et des autres.
Quel est le rôle justement en termes de coordination de la communauté de communes Flandre-Lys dans cette crise au sein des communes ?
Alors finalement, ça s'est fait relativement naturellement. Je vais vous donner un exemple. On a des entreprises qui donc ont souhaité, suite à des appels qu'on a pu poster sur les réseaux sociaux, notamment par exemple, avez-vous des masques à disposition, avez-vous des vêtements de protection à disposition, avez-vous du gel hydroalcoolique à disposition, et au lieu de venir distribuer sur les 8 communes, eh bien les gens ont bien compris qu'il y avait un intérêt, et même si ça se fait aussi hein, dans les communes, à venir solliciter la communauté de communes pour que la communauté de communes puisse redispatcher ces dons, par exemple, dans les cas dont je viens de parler, derrière, en fait. Hein. Donc, on a un exemple extrêmement concret, l'hôpital d'Armentières qui avait besoin de groupes électrogènes et de chapiteaux. Eh bien, plutôt que de s'adresser aux communes, hop, directement, ils se sont adressés à la communauté de communes. Et puis, nous, avec les maires, on a décidé donc de quotas d'attribution de matériel.
Très bien. Alors, est-ce que vous conseillez aussi vos partenaires élus sur des décisions à prendre, comme par exemple le maintien ou non des marchés, ou est-ce que du coup, ça ne rentre plus dans le cadre des compétences de la communauté de communes ? Éclairez-nous.
Voilà. Quelque part, finalement, il y a les compétences qui sont bien évidemment les compétences officielles et puis il y a le bon sens. Donc, même si les marchés ou le commerce, c'est pas une compétence communautaire, on travaille quand même, en effet, de la même manière. Donc, on s'envoie les uns les autres des copies de courriers qu'on peut adresser à monsieur le sous-préfet pour, par exemple, demander une dérogation sur un marché. On discute beaucoup parce que on a la compétence ici en comité de communes de tout ce qui est la collecte des ordures ménagères, comment continuer à organiser avec notre syndicat la collecte des ordures ménagères. On a par exemple actuellement quelques petites différences sur collecte ou non au niveau des déchets verts. Donc, en effet, on a besoin de se contacter les uns les autres quasiment de manière journalière hein, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme, même si ça n'est jamais 100% uniforme sur le territoire.
Alors, vous l'avez dit, hein, Bruno Ficheux, de nombreuses communes et communautés de communes ont adapté leurs services, y compris donc le ramassage des déchets. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière non exhaustive quels sont les services communautaires essentiels qui sont à l'arrêt et en fonctionnement ?
Alors, en fonctionnement, vraiment le numéro un, c'est le ramassage des ordures ménagères, hein, puisque nous avons la compétence collecte. Donc ça, c'est vraiment le numéro un et ça continue de fonctionner. Ça continue aussi de fonctionner parce qu'il y a des nouveaux habitants qui sont arrivés sur le territoire malgré quelque part cette période un petit peu compliquée et qui n'ont pas de bac déchets. Donc on continue avec un rythme moins soutenu, mais on continue quand même à aller fournir, approvisionner les nouveaux habitants en termes de bac déchets. Ça, c'est notre service vraiment essentiel. Il y a une continuité aussi sur tout ce qui est la partie financière, c'est-à-dire tout ce qui est paiement auprès des entreprises, donc le mandatement, on mandate vers le Trésor public et le Trésor public peut payer les entreprises. C'est les deux services-là qui sont les services essentiels. Eh bien, il y a une continuité du service public. Les choses qu'on a mis un petit peu plus en veilleuse, alors, c'est le service des relais assistantes maternelles. On a près de 500 assistantes maternelles sur le territoire, mais bien évidemment, nos agents ne font plus les animations dans les communes. On s'est adressé aux assistantes maternelles par l'intermédiaire de mails. Hein. On a les 500 mails. Et ça, c'est un service, par exemple, qu'on a mis en sommeil. Autre service qu'on a pu mettre en sommeil, c'est tout ce qu'on peut faire d'habitude en termes de conseils aux économies d'énergie, en termes de conseils pour l'obtention des subventions pour la rénovation des maisons. On continue à instruire les permis de construire. Ça, on n'a pas mis du tout de veille là-dessus, même si l'État nous a accordé des délais supplémentaires. En termes du service santé, on a fait des choses qui sont un petit peu différentes. Si vous allez sur le Facebook de la communauté de communes, vous allez trouver des petites vidéos où notre animatrice santé vous propose de cuisiner les carottes, de cuisiner les œufs, avec des choses un petit peu originales. Donc la partie du service santé, ça n'est plus du tout le même travail que d'habitude, où on intervient énormément dans les écoles, mais voilà, on a transformé un petit peu nos actions. Au niveau des marchés publics, eh bien là, on est quand même beaucoup en retrait, hein, puisque c'est compliqué de pouvoir lancer des marchés actuellement et de dialoguer avec les entreprises. Donc là, on a un petit peu des choses qui ont été vraiment freinées extrêmement fortement. Voilà un petit peu pour les grandes actions de la communauté de communes. Et puis, on a les chantiers que nous sommes en train de suivre, qui ont débuté et qui ont été mis au ralenti. Hein, je pense à la rénovation du Castel de l'Alleu à l'Aventie. Notre piscine intercommunale que nous avons décidé de fermer. Hein, de toute façon, on n'avait pas le choix, mais ça, c'est un sujet aussi très, très important. Hein, la piscine Londine, basée à Éter, qui a été complètement stoppée depuis 3 semaines maintenant. Donc, vous voyez, on peut dire que, allez, il y a près de 60% des activités de la communauté de communes qui sont à l'arrêt et 40% où ça tourne encore.
L'épicerie solidaire intercommunale, elle fonctionne toujours à l'heure actuelle ?
Non, alors là, l'épicerie solidaire intercommunale, nous l'avons arrêtée également et nous avons proposé aux communes de revenir sur des systèmes plus classiques de distribution de bons alimentaires. La problématique, c'est que notre épicerie solidaire intercommunale, eh bien, elle fait de la collecte, donc elle se déplace dans les supermarchés quasiment de manière journalière pour récupérer les invendus. Et aujourd'hui, il y a des consignes aussi qui sont extrêmement compliquées au niveau de ces supermarchés en termes de barrières sanitaires. Et ça devenait très compliqué de la faire fonctionner de manière optimale. Donc, on a préféré aussi mettre un stop. Et c'est les communes qui prennent le relais.
Ma station, ma région, ma passion.
Vous êtes toujours dans Savoir Plus sur Radio Plus et ce matin nous évoquons la gestion de la crise du coronavirus par les communes et communautés de communes avec l'exemple tout d'abord de la communauté de communes Flandre-Lys en compagnie de son président Bruno Ficheux, interrogé par Julien Maille.
Alors on est dans une période également démocratique assez particulière. Le premier tour des élections municipales a eu lieu, mais les conseils municipaux ne sont pas institués dans certaines communes. Alors je ne sais pas si c'est le cas sur le territoire de Flandre-Lys, mais ouais, le second tour n'a pas encore eu lieu. Ce qui implique aussi que les conseils communautaires ne peuvent pas être renouvelés à l'heure actuelle. Alors comment s'organise démocratiquement, politiquement, la communauté de communes Flandre-Lys durant cette période ?
Alors là, c'est un sujet en effet extrêmement d'actualité, puisque sur les 8 communes, nous on a 7 où les conseils municipaux ont été élus, et la 8e, mais c'est pas la moindre, puisque c'est le conseil municipal de la ville de Merville qui n'est pas encore élu, hein, où ils devront aller vers un second tour. Et donc les délégués de Merville représentent environ 25% des délégués communautaires, donc on a En effet, 75% nouveaux élus et 25% anciens élus. Donc, comme c'est compliqué de se réunir et que quelque part on ne peut pas se réunir avec le confinement, ça passe essentiellement les décisions par des approbations des 8 maires. Hein, donc les maires qui sont pour l'instant soit nouvel arrivant, soit en fonction, pas encore élus en tant que maire, puisque il faut que les nouvelles listes élisent leurs maires et leurs adjoints, et puis les anciens pour la partie de Merville. Donc c'est vrai que on essaye de faire jouer la démocratie du mieux possible. On respecte surtout les textes législatifs, mais c'est un peu compliqué, ou en tout cas c'est une situation tout à fait inconnue pour nous. Mais encore une fois, notre petite taille fait que c'est extrêmement facile quand même de s'en prendre.
Je pose la question parce que il est vrai que on est dans une situation où, et on en parlera un petit peu plus tard dans cette interview, il faut aussi accompagner économiquement, notamment les entreprises, donc engager de l'argent. Et j'imagine que c'est pas forcément facile à mettre en œuvre quand on ne sait pas quelle sera la suite politique avec eh bien de nouveaux délégués qui vont arriver, peut-être un changement de présidence aussi. Donc j'imagine en tout cas que vous êtes dans une situation où vous êtes amené à expédier les affaires courantes, peut-être?
Oui, c'est quand même beaucoup plus le fait d'expédier les affaires courantes que de se projeter sur les 6 prochaines années. Et au niveau des entreprises, aujourd'hui, bon, je vois dans les médias qu'il y a un certain nombre d'annonces qui sont faites par certaines collectivités, mais ça reste quand même aujourd'hui extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par la région. Et puis, la dernière collectivité qui intervient dans le développement économique, ce sont les communautés de communes. Donc déjà, il faut faire attention à ce que les dispositifs qui sont mis en place ou qui vont être mis en place ne soient pas redondants et qu'on ne fasse pas la même chose que ce que la région a pu faire ou que la région ne fasse pas la même chose que ce que l'État a pu faire. Donc, prendre des décisions actuellement, de toute façon aujourd'hui, c'est extrêmement trop prématuré, selon moi. Il va falloir se regrouper dès que ça va pouvoir être possible. Donc, on a imaginé faire un groupe avec des représentants du monde économique, donc des chefs d'entreprise et de différentes tailles d'entreprise, hein, parce que quand vous êtes une entreprise, vous êtes un commerce, imaginons une esthéticienne dans une de nos 8 communes, votre salon est fermé depuis 2 mois, quels sont vos revenus, comment ça fonctionne. Donc, il y a des très petites entreprises comme ça, puis on a aussi, vous le savez, sur le territoire, des très grosses entreprises. Donc, l'idée, c'est de se réunir, des représentants du monde de l'entreprise, des représentants des services fiscaux, des représentants du monde bancaire, des représentants du monde de toute la partie des experts comptables, des commissaires aux comptes, des élus, pour essayer ensemble de regarder quelles solutions et comment on va pouvoir s'impliquer auprès de nos entreprises. Bien évidemment, il y aura de l'argent à mettre sur la table, on en est déjà complètement conscient, ça va nous obliger à revoir complètement nos plans d'investissement. Ce ne sera absolument plus en 2020 ou 2021 ce qu'on avait pu imaginer. Je crois que la majorité de nos forces vont se diriger vers les entreprises. Nous-mêmes, nous allons être pénalisés puisque nous allons perdre de recettes. À partir du moment où les entreprises ne fonctionnent plus, eh bien, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, eh bien, elle diminue. Pour les villes, par exemple, les droits de mutation à titre onéreux, tout ça, ça va diminuer également. Donc, il va y avoir des pertes de recettes aussi pour les collectivités. Et il va falloir regarder comment on va pouvoir optimiser les trésoreries existantes, notre trésorerie, et l'aide qu'on va pouvoir apporter aux entreprises. Mais ça se fait pas d'un coup de baguette magique, et ça va nécessiter, à mon sens, des semaines de travail. Même s'il faudra être rapide, puisque les entreprises, elles vont avoir besoin très rapidement de soutien, mais il faut quand même que ce soit très très coordonné et très réfléchi. C'est un, de l'argent public, et deux, on peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc de l'aide aux entreprises, oui, à fond, très fort, mais avec une grande réflexion en amont.
Alors on va s'intéresser à présent aux premiers concernés par le confinement, Bruno Ficheux, les habitants du territoire de Flandre-Lys. Comment vont-ils physiquement, moralement? Est-ce que l'on recense aussi des cas de Covid-19 avérés ou suspectés en Flandre-Lys, sans bien sûr trahir un quelconque secret médical?
Donc bien évidemment, il y a des cas de Covid-19 sur le territoire Flandre-Lys et à tous les niveaux. On a quelques informations, en effet, sans trahir le secret médical, par les maisons médicales. Vous savez qu'on a la chance d'être un territoire extrêmement bien structuré en termes de maisons de santé pluridisciplinaires, puisque on en aura très prochainement 6 pour les 8 communes. Et donc, il y a des informations qui nous parviennent. Et comme partout sur le territoire national, on a bien évidemment des personnes qui sont touchées. La situation dans nos EHPAD est relativement correcte. On ne se retrouve pas dans des situations catastrophiques comme on peut en entendre dans certaines régions. Donc ça, c'est plutôt bien géré. Bravo et félicitations au personnel de nos EHPAD. On a des discussions avec la gendarmerie, puisque nous sommes en zone de gendarmerie. Le confinement est plutôt très bien respecté et aucun des 8 maires n'a eu besoin de prendre un arrêté type couvre-feu, puisque les populations ont bien compris ce qui se passait et respectent vraiment très très bien le confinement. Le moral des troupes, il est quand même affecté. On a quand même beaucoup de messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux, nous demandant soit de l'aide, soit d'organiser différentes choses. Donc on sent que, le temps commence à devenir un petit peu long, mais globalement, on est dans un secteur qui est assez protégé. On est plutôt périurbain, on est plutôt des ruraux. Il y a plutôt beaucoup de maisons avec des jardins. On n'est pas dans un habitat vertical extrêmement développé. Donc, c'est peut-être un peu plus facile pour nous quand même.
Quel message vous voulez adresser justement à ceux qui habitent le territoire et qui vous écoutent ?
Le message, c'est de poursuivre comme on le fait maintenant, de poursuivre la solidarité parce qu'on a mis en place des choses, nous, les collectivités, mais les gens se sont organisés eux-mêmes. On a lancé quelques idées. Par exemple, on travaille avec le CHU de Lille et l'association Masque en Or, l'entreprise Le Mailleux, qui est sur la métropole européenne de Lille, et nous faisons partie des collectivités qui sont en train de fabriquer des masques pour les remettre vers le CHU de Lille. Et on a près de 50 couturières qui se sont manifestées. Il y a déjà presque 1500 masques tissus. Et pourtant, c'est assez compliqué à faire puisque une couturière expérimentée va passer environ 30 minutes pour fabriquer un masque selon les préconisations du CHU de Lille. Donc, il y a plusieurs épaisseurs, etc. Donc, toutes ces initiatives-là, eh bien, je voudrais dire aux habitants que c'est bien si elles peuvent se poursuivre, qu'on est ouvert aussi, nous les élus, à écouter toutes les bonnes initiatives. Et puis, il y a certaines choses qui sont peut-être moins importantes et il faut vraiment voir l'intérêt global. On a quelques thématiques et problématiques avec le ramassage des déchets verts. Et voilà, il faut dire que tout ce qu'on peut stocker chez soi et tout ce qui pourra encore tenir pendant 3, 4, 5 semaines, eh bien, il faut le faire parce qu'on veut quand même, nous les élus, éviter d'exposer des agents pour aller quelque part donner certains éléments qu'on pourrait qualifier de confort et qui sont peut-être pas vitaux et qui peuvent encore entendre un petit peu de temps. Mais globalement, ces messages-là passent bien. Donc, merci aux gens du territoire Flandre-Lys. Ils font vivre également leur marché. On a eu une petite période de flottement dans certaines communes, mais tous les marchés sont aujourd'hui en fonction, sous dérogation, avec vraiment des manières de fonctionner tout à fait spécifiques qui respectent les barrières sanitaires. Ça permet de faire vivre aussi nos commerçants locaux, nos commerçants de centre-ville. Donc, je pense que tout le monde a bien saisi que chacun avait un rôle à jouer. Bien sûr, il y a toujours des petites exceptions, mais dans quel territoire il n'y en aurait pas.
11h passées de 19 minutes sur Radio Plus. Nous sommes toujours en compagnie de Bruno Fisch, président de la communauté de communes de Flandre-Lys et maire d'Éther, pour parler de la gestion de la crise actuelle du coronavirus. Et on s'intéresse à présent à différents aspects économiques de cette crise, toujours en compagnie de Julien Maille.
Alors, cette crise du coronavirus implique de nouvelles formes de solidarité. Vous en avez cité quelques exemples, dont de matériel médical. Et d'ailleurs, l'exemple de la communauté de communes Flandre-Lys est assez intéressant puisque dès le début de la crise, et vous l'avez rappelé en début d'entretien, vous avez mis à disposition du matériel communautaire à destination des hôpitaux, des chapiteaux pour le centre hospitalier d'Armentières, des groupes électrogènes également. Les entreprises du territoire comme Roquette ont mis à disposition leurs compétences et leur matériel pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Je crois que c'est 5000 litres qui vont être produit prochainement. On a également cette opération Masque en Or que vous avez évoquée. Expliquez-nous comment se sont mises en place ces solidarités, parce qu'il faut organiser tout ça, on imagine.
Oui, alors là, on peut compter sur le personnel de la communauté de communes et puis qui connaît bien le personnel des communes. Et ensemble, les communes et la communauté de communes, le personnel est en capacité de porter justement tous ces projets-là. Donc, on détermine un leader de projet, par exemple pour Masque en Or. Voilà, on a une dame qui s'appelle Julie Penin et qui a pris l'affaire en main et qui est chargée d'aller déposer les kits dans toutes les communes. Donc, sur chaque action, on détermine un leader et puis ce leader, c'est à lui d'entrer en contact avec ses collègues dans les communes avec les habitants pour porter l'action. Donc on a vraiment essayé de fonctionner comme ça, cette fois-ci en silo, un projet, un leader, et puis on y va. Vous parliez en effet de Roquette, hein, qui s'est mis à la fabrication de gel hydroalcoolique. Donc là, on a décidé d'avoir en effet un leader, c'est un de nos agents des services techniques. C'est lui qui va chercher la dotation hebdomadaire. On passera à 60 litres dès la semaine prochaine, et qui va faire sa tournée dans les différents centres médicaux. Donc ça se passe extrêmement bien, puisque les gens s'adaptent et des personnes qui étaient par exemple dans les services administratifs deviennent des gens qui, comme on le disait, viennent assister la personne qui s'occupe de toute la partie des masques. Des gens qui étaient dans les services techniques vont aussi partir vers l'hôpital d'Armentières, comme on disait, pour aider à aller monter un chapiteau. Enfin voilà, il y a beaucoup de polyvalence au niveau des agents, et c'est comme ça qu'on arrive à booster les choses. Encore une fois, je pense que notre force, c'est le fait d'être une petite collectivité, et que de ce fait, ça a été extrêmement facile de s'organiser rapidement. Et puis, on parle de Roquette, on parle du gel hydroalcoolique, mais d'autres choses. On a un groupe chez nous qui s'appelle le groupe Vitalis, qui est un des leaders français dans le conditionnement des pommes de terre et d'oignons, et avec lequel on est en train de travailler, parce qu'ils souhaitent mettre à disposition des EHPAD des produits alimentaires gratuitement, de première nécessité, de manière à éviter aux cuisiniers des EHPAD des allers et retours pour venir chercher des produits dont on a besoin de beaucoup en termes de masse. Et donc, ils vont très certainement fournir dès la semaine prochaine pommes de terre et oignons au niveau des EHPAD ou de production de repas collectifs sur le territoire. Hein, donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives vraiment différentes qui sont portées par les uns et par les autres.
Alors, rappelons également que vous êtes solidaire de l'opération Masque en or, hein, qui consiste à fabriquer des masques alternatifs en tissu, qu'il y a aussi une collecte de matériel médical qui est ensuite répartie au sein des différents professionnels de santé via le pôle santé Flandre-Lys. Est-ce que aujourd'hui vous lancez un appel aux dons de matériel, quel qu'il soit?
Alors, le matériel qui manque, et on le sait, hein, c'est bien évidemment les masques. La communauté de communes Flandre-Lys se fait forte de venir chercher des masques qui pourraient être donnés par les uns ou par les autres et de les redistribuer de manière équitable à tous les professionnels de santé du territoire, même si quand je dis tout avec un grand S à la fin de tout, ça reste difficile de satisfaire tout le monde, tellement on a finalement deux personnes qui ont des besoins entre les associations type ADAR, DMR, entre les infirmières libérales. La consommation des masques est tellement importante que c'est parfois difficile de satisfaire chacun. Donc oui, si j'ai un appel à lancer, en numéro un, ce qui manque en numéro un, ce sont bien évidemment les masques.
Notre invité sur Radio Plus, Bruno Ficheux, président de la communauté de communes Flandre-Lys. Nous abordons à présent, évidemment, le volet économique de cette crise sanitaire. Combien d'entreprises sont recensées comme étant à l'arrêt complet en Flandre-Lys?
Alors, le chiffre exact, je ne le connais pas, mais on est bien évidemment à plusieurs centaines d'entreprises qui sont à l'arrêt sur le territoire, notamment toutes les entreprises, petites entreprises, très petites entreprises, hein, qui sont des entreprises commerciales essentiellement et de services. Et là, on a vraiment un arrêt complet de l'activité. Sur la partie des artisans, on dirait entreprises avec environ 9 salariés, là, on a des contacts réguliers par mail, on essaye de s'adresser à eux deux fois par semaine, dès qu'il se passe quelque chose en fait en termes d'information. Là, on pense qu'on est à 50% d'arrêt des entreprises. Et puis sur les plus grosses entreprises, eh bien en fonction de leur domaine d'activité, il y a du chômage partiel ou il n'y a pas de chômage partiel. Donc c'est extrêmement difficile pour moi de vous donner des chiffres plus précis que ceux que je viens de vous donner. Mais en tout cas, ce que l'on ressent, c'est que nous sommes face réellement à un cataclysme, et c'est extrêmement compliqué de réussir à se projeter pour les prochaines semaines. Quand je dis les prochaines semaines, la reprise qu'on espère tous à partir du mois de juin, et c'est là où on devrait être extrêmement réactif, mais je suis quand même relativement pessimiste aussi pour un grand nombre d'activités où ce sera très 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 compliqué, une fois que la trésorerie sera consommée, de pouvoir redémarrer, quoi. Ça, c'est vraiment ce qui fait peur aujourd'hui à tous, hein, mais particulièrement aux élus.
Un impact financier assez conséquent, on imagine, hein, sur votre territoire. Alors, comment est-ce que vous accompagnez aujourd'hui au quotidien les entreprises, Bruno Ficheux?
Alors, aujourd'hui, le quotidien réellement, donc c'est le service développement économique de la communauté de communes qui a établi un pont, entre guillemets, virtuel, par mail, de connexion entre la communauté de communes et ses entreprises. Donc l'idée, c'est de donner des informations de tout ce qui peut être décidé par l'État. Est-ce qu'on peut mettre son personnel en chômage partiel? Quelles sont les conditions? Comment on fait? Et puis on a aussi là avec une permanence téléphonique en disant oui, on peut appeler les personnes qui sont en charge du DVCO en CCSL et ces personnes vont essayer de renseigner au maximum. Donc essentiellement actuellement, ce sont des échanges d'informations. Mais derrière, on va devoir aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, hein, c'est donc de l'aide financière directe aux entreprises. On passera forcément par cette étape-là. Heureusement, on a une situation financière qui est tout à fait saine. Heureusement, on n'a jamais eu la folie des grandeurs. On a une trésorerie qui va nous permettre d'intervenir. Et je chiffre l'intervention aujourd'hui à plusieurs millions d'euros, à mon sens.
Alors, votre communauté de communes œuvrait aussi en parallèle avant cette crise à son développement avec les zones d'activité commerciale et les zones industrielles qui se développaient encore, de mémoire sur Fleurbaix, sur Merville. La zone d'activité de la Louette à l'Étrême pour laquelle il restait une à deux parcelles disponibles. Est-ce que ce développement est menacé aujourd'hui, Bruno Ficheux?
Non, le développement, je pense qu'il n'est pas menacé du tout. On était en phase, en effet, de vente de nos dernières parcelles et on était surtout en phase d'acquisition de nouveaux terrains pour bâtir de nouvelles zones d'activité. La communauté de communes Flandre-Lys, c'est dans son ADN l'activité économique et on a toujours beaucoup misé là-dessus, hein, et ce qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une trésorerie tout à fait intéressante. Et aujourd'hui, on va devoir se servir de cette trésorerie pour venir aider ceux qui ont fait quelque part notre richesse, donc les entreprises. Ce sera un juste retour des choses. Donc non, le développement économique, il est absolument pas compromis, mais il va avoir un coût de frein extrêmement important. Et si aujourd'hui on était une collectivité qui était plutôt à 132 à l'heure sur autoroute qu'à 130, donc on était vraiment à fond, on va très certainement avoir un gros stop et sans doute revenir juste aux 90, quoi. Et là, ça va nous marquer quand même, je pense, pendant quasiment la moitié du mandat qui est en train d'arriver. Et c'est tout à fait inattendu. Et il y a un certain nombre de projets qu'on ne portera pas au cours de ces 6 ans pour se concentrer sur l'essentiel.
Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui, Bruno Ficheux?
Qu'est-ce que j'attends de l'État? Je pense que l'État, il est en très grande difficulté lui-même. Alors moi, je veux condamner personne parce que c'est extrêmement compliqué. Après, on peut un peu s'interroger quand même. J'ai eu l'occasion dans mon ancien métier de beaucoup voyager à l'international et notamment beaucoup en Chine. Je pense qu'il suffisait d'observer quand même ce qui se passait pour pouvoir peut-être se préparer un peu mieux. Mais bon, c'est toujours plus difficile de commenter de loin que quand on est au cœur du réacteur. Et j'imagine bien que c'est extrêmement compliqué de gérer tout ce qui se passe. Et je pense que les gens qui sont au gouvernement, ils ont vraiment la vision de ce qui va arriver demain. Et ça doit être extrêmement compliqué. Ce que j'attends de l'État, c'est que ça ne soit pas dans les efforts qui vont être faits auprès des entreprises uniquement des reports, uniquement des prêts, des emprunts. C'est qu'à un moment donné, on doit dire aux gens, écoutez, vous n'avez pas eu de recettes du tout, vous n'avez pas pu faire du chiffre d'affaires pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, eh bien, on va prendre des décisions qu'on n'a jamais prises. Reporter de la TVA, ça ne sert à rien, vous reportez pendant un moment, mais au bout d'un moment, il faut quand même la payer. Donc, c'est vraiment des allègements, des choses que les entreprises ne devront pas payer, plutôt que d'avoir des choses qui sont on reporte. Donc j'attends de l'État cet effort quelque part extrêmement important. Mais bon, on sait aussi qu'on a un État qui est fortement endetté. Aura-t-il les moyens de venir au secours de ces entreprises? J'avoue qu'aujourd'hui, le doute est plus que permis. Et je suis plutôt aujourd'hui sur la confiance dans le local que sur la confiance dans le national.
Alors justement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a déclaré ce midi que la relance de l'économie ne passera pas par une augmentation d'impôts, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous ne craignez pas qu'encore une fois, tout se répercute sur les élus locaux?
Bien sûr, mais évidemment, j'en suis persuadé. Déjà que quelque part, pour essayer de diminuer la dette publique, on a vraiment tapé sur les collectivités depuis le début du mandat de François Hollande, hein, voire la fin de celui de Nicolas Sarkozy avec le gel des dotations. On a beau le répéter aux oreilles de nos concitoyens, je pense qu'ils ont du mal à l'entendre, et c'est difficile pour eux de se rendre compte, hein, de tout cet argent dont on ne dispose plus. Mais je suis en effet très pessimiste pour les collectivités et je pense que l'État va en effet, encore une fois, essayer de se défausser sur les collectivités locales qui vont elles-mêmes être, comme je disais tout à l'heure, en difficulté, en tout cas pour certaines, parce qu'elles auront moins de recettes. Lorsque vous vendez un bien immobilier, votre maison par exemple, et que vous avez des frais de notaire, bien évidemment, c'est pas le notaire qui récupère l'ensemble de ces frais de notaire. Cet argent est distribué, une partie pour l'État, une partie pour le département, une partie pour les villes, c'est ce qu'on appelle les DMTO, que je disais tout à l'heure. Eh bien, étant donné que le marché immobilier, eh bien, il va forcément être gelé pendant 2 ou 3 mois, ces recettes-là vont tomber. Donc déjà, les collectivités, elles auront moins de recettes et on va très certainement les inviter à faire un gros effort de soutien. Donc, au bout d'un moment, pour certaines communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles européennes, l'équation va être impossible à résoudre. Oui, je suis un peu pessimiste sur ce plan-là. Mais bon, on est là aussi pour ça. Il va falloir se relever les manches et trouver des solutions. En tout cas, imaginer des systèmes qu'on a jusqu'à ce jour pas encore imaginés.
Justement, comment vous voyez l'après, à court terme, pour la communauté de communes Flandre-Lys ?
Encore une fois, je pense que le cas tout à fait particulier de la communauté de communes Flandre-Lys doit nous permettre de tirer notre épingle du jeu. Parce que la gestion qui a été faite, et depuis bien avant ma présidence, a été extrêmement sage et rigoureuse, et on a toujours voulu avoir une trésorerie confortable plutôt que de partir dans des projets délirants. On pouvait se permettre ces projets-là. Donc je crois qu'on sera, on pourrait être présent au rendez-vous. Vraiment, en vendredi, je pense qu'on pourrait être présent au rendez-vous, mais il faudra l'être de manière extrêmement équitable pour les uns et pour les autres. Et puis aussi en complément des dispositifs existants et non pas en redondance des dispositifs existants. Donc pour Flandre-Lys, je reste optimiste, mais ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans où il va falloir durement se bagarrer pour être au soutien de notre monde économique.
Eh bien, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage parce que les élus de terrain vont effectivement en avoir besoin. Merci beaucoup Bruno Fichieux d'avoir été notre invité sur Radio Plus.
Radio Plus. 11h33 sur Radio Plus, sur le Lensois aussi, les difficultés économiques liées à cette épidémie de coronavirus sont évidemment présentes, raison pour laquelle la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a décidé de débloquer un fonds d'aide aux très petites entreprises sous forme de prêts sans intérêt. Sylvain Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin qui vient de débloquer justement un fonds d'1 million d'euros à destination des très petites entreprises. Qu'est-ce qui vous a décidé à débloquer ce fonds ?
C'est-à-dire depuis le début de la crise, on se devait de regarder comment accompagner aussi les entreprises qui aujourd'hui étaient à l'arrêt pour pouvoir redémarrer une fois cette période de confinement terminée. Donc on a travaillé avec les services de la communauté d'agglomération pour regarder les modalités, dégager les moyens financiers et surtout un mode opératoire qui soit le plus facile possible dans des mesures aujourd'hui un peu particulières parce que c'est des modalités qui sont, j'allais dire, classiques, peut-être le plus simple, en tout cas pour ce qu'on a souhaité, mais qui sont aussi encadrées aujourd'hui par un contexte à la fois sanitaire, mais en même temps un contexte juridique qui nous permet pas forcément de pouvoir prendre des mesures dérogatoires. Donc on a sur ce tissu de très petites entreprises, qui est quand même la majorité de notre territoire, regardé comment on pouvait les accompagner et comment au moment du redémarrage de l'activité, la partie trésorerie qui sera aussi un moment un peu, j'allais dire peut-être charnière pour pouvoir voir lesquelles entreprises peuvent redémarrer, soit pas forcément la partie la plus délicate à gérer. Donc à notre niveau, en complément des aides de l'État, en complément des aides de la région, qui ont aussi mis en place des dispositifs à notre niveau, au niveau de l'agglomération. Donc comment on peut nous aussi avoir cette contribution, voire pour redémarrer rapidement, parce que c'est tout l'enjeu, c'est de redémarrer rapidement une fois cette période de confinement terminée.
Est-ce que vous avez des informations par rapport justement aux très petites entreprises du territoire ? Est-ce que vous avez une idée des difficultés qu'elles rencontrent actuellement ? Est-ce qu'on vous remonte ça ?
Non, on n'a pas ce type d'information. L'activité s'est arrêtée quand même assez brutalement. Donc aujourd'hui, même sur des entreprises qui pouvaient être en difficulté, voilà, le temps s'est arrêté et tout l'enjeu et toute notre volonté partagée donc avec les élus de l'agglomération, c'est vraiment de regarder et d'accompagner ce tissu qui est quand même le tissu le plus présent sur notre territoire de TPE. pour dire de pouvoir avoir un redémarrage le moins difficile possible. Ça va être difficile pour beaucoup de monde, mais on essaie de regarder comment à notre échelle on peut les accompagner pour passer cette étape et surtout garder là aussi à la fois les entreprises, les emplois, l'activité sur notre territoire.
Concrètement, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de cette aide qui est une aide en fait sous forme de prêt, hein?
Oui, alors c'est une avance remboursable parce que là aussi on est dans un cadre d'organisation, un cadre légal qui est particulier. Donc c'est une avance remboursable qui est accordée. Donc on a plusieurs critères sur la taille des entreprises, sur les secteurs d'activité géographique, mais pour essayer de regarder aussi là où ça sera le plus impactant de façon positive pour redémarrer l'activité. On a les services de la communauté d'agglomération qui sont mobilisés, donc faut pas hésiter parce qu'on a déterminé un cadre général et ce cadre là aussi a peut-être des imperfections. Donc on est peut-être aussi passé à travers certaines situations, et si on peut pas nous aider en direct, on pourra peut-être regarder quels dispositifs sont déjà mobilisables pour accompagner toute entreprise de notre territoire. Mais l'enjeu, c'était vraiment de dire aujourd'hui, c'est une aide remboursable, mais qui sera avec un différé, donc au 1er janvier 2021. Donc, vous voyez, on garde aussi le temps. On sait très bien que le démarrage va pas être immédiat, forcément avec des recettes importantes pour les entreprises. Donc, garder le temps de ramorcer la pompe et de pouvoir se projeter sur du moyen terme. En tout cas, c'est un peu l'esprit de cette avance et de cette aide qu'on a mis en place.
Ça concerne essentiellement donc les entreprises entre 1 et 10 salariés. Il y a certaines, alors pas toutes les entreprises aussi, hein. On a le cap.
On a limité aussi avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, parce que voilà, on est sur un tissu aussi. Quand on regarde la composition, la structuration économique de notre territoire, on a en nombre assez conséquent ce type d'entreprise. Donc on a regardé comment aider le plus grand nombre, sachant que c'est surtout aussi sur ce type d'entreprise que des moments au niveau des aides classiques ou des dispositifs bancaires, c'est peut-être plus difficile à mobiliser dans un premier temps, y compris pour des entreprises en création. On est parti sur ce type d'activité-là aussi, où avec un chiffre d'affaires, la région et l'État avaient mis 50%, mais on est descendu sur certains types à 40%. Vous voyez, donc on essaye d'adapter aussi des dispositifs qui soient vraiment qui puissent compléter les dispositifs déjà en place, mais qui soient aussi peut-être pour aller solliciter ou permettre à des entreprises qui ne sont pas dans les cadres des dispositifs régionaux ou de l'État, d'avoir aussi un dispositif qui puisse les accompagner dans cette phase de redémarrage.
Est-ce que vous avez pu estimer le nombre d'entreprises qui pourraient bénéficier de ce prêt?
Non, c'est toute la difficulté, c'est que on navigue là-dessus avec des dispositifs qui vont encore évoluer sûrement, mais voilà, c'est aussi de donner une impulsion et d'essayer justement de pouvoir leur donner cette stratégie d'accompagnement. Mais aujourd'hui, on sait que le montant peut fluctuer, peut aller jusqu'à 5 000 euros. Donc si on prend le montant maximum sur 1 million, potentiellement ça fait 200 entreprises, peut-être certaines en auront besoin de moins d'avance. Donc voilà, ça peut aider plus d'entreprises que ça aussi, mais on n'a aucune idée aujourd'hui parce qu'on n'a pas la situation réelle des entreprises en tant que telles, hein. Donc on sait qu'on va être sollicité, et depuis hier les services de l'agglo sont à l'écoute des entreprises qui peuvent déjà commencer à chercher des renseignements, remplir les dossiers pour pouvoir là être opérationnel très rapidement.
Avec une instruction très rapide, hein, des dossiers, hein, sous 72 heures, hein, c'est
oui.
Ça
Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi le travail qui a été fait en amont pour débloquer le dossier, donc organiser nos services, organiser aussi par rapport au paiement, parce qu'on reste dans des règles de fonctionnement de droit public, donc avec là la trésorerie qui nous accompagne aussi, le trésor public qui joue sa partition là-dessus, donc qui nous accompagne sur la gestion de cette crise et qui nous accompagne dans la gestion de cette aide.
Alors, ce n'est pas la première fois, hein, que la CAL aide les très petites entreprises, puisque la communauté d'agglomération avait adopté une délibération exonérant pendant 7 ans de cotisation foncière des entreprises, les petites et moyennes entreprises créées sur le territoire de l'agglomération entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre de cette année. Est-ce que d'autres mesures pourraient suivre ?
Ça, on a déjà. Alors, cette mesure-là existait dans le cadre de ce qu'on appelait les zones franches. Donc, c'était pas pour toutes les entreprises, mais c'était aussi pour les zones franches dans le cadre du projet aussi de l'RBM. Ça avait été mis en place, c'était plus large. On a exonéré aussi, on a reporté les loyers. On a regardé comment on pouvait accompagner les entreprises qui sont dans nos bâtiments. Alors, on n'a pas pléthore de bâtiments, mais on a quelques entreprises, notamment en création. On est plutôt sur cette notion de démarrage d'entreprise. Donc là aussi, c'est de les accompagner de cette nature-là. Et puis de regarder aussi comment on arrive de façon complémentaire aux autres dispositifs qui sont déjà présents. Parce que l'intérêt, c'est vraiment de mobiliser le maximum tout ce qui existe pour dire que l'entreprise puisse avoir un peu de visibilité au moment de redémarrer son activité.
Alors ce nouveau fonds représente une part assez faible, hein, du budget de la communauté d'agglomération de Lens-Livin. Cependant, avec la chute d'activité, hein, constatée actuellement, est-ce que vous avez des craintes en termes de recettes et pensez-vous pouvoir justement maintenir l'équilibre financier ?
Ben écoutez, c'est tout l'enjeu et tout le travail qui va être aussi celui de l'agglomération. Alors c'est une part faible, oui et non, parce que quand on regarde nos réelles marges de manœuvre, c'est déjà une part très conséquente, je peux vous assurer, parce qu'on a beaucoup de dépenses aussi obligatoires. On reverse une bonne partie aussi de notre budget aux communes dans le cadre des fonds de compensation. On a des dépenses obligatoires sur certaines activités. Donc là, on est sur une enveloppe qu'on a pu aussi là allouer en fonction des crédits qui sont déjà inscrits. Et là, tout le travail va être aussi de regarder comment peut-être mobiliser. On a essayé de solliciter la Banque des Territoires et on attend leur réponse, parce que la Banque des Territoires, c'est aussi dans leur objectif et dans leur intérêt de nous aider. J'espère qu'ils ne l'oublieront pas, parce qu'on cherche aussi à mobiliser une ligne de trésorerie pour augmenter cette capacité d'accompagnement de nos entreprises, pas pour nos besoins propres en tant que tels, mais la Banque des Territoires doit jouer ce jeu-là. C'est son rôle, c'est pas le rôle d'aider directement, parce que je vois en ce moment, elle lance de la publicité pour aider les entreprises. Sur le fond, tant mieux, sauf qu'il y a des collectivités qui demandent aussi son appui, et c'est dans les principes même et dans les statuts de la Banque des Territoires qu'on débute.
Alors plus globalement, au niveau de la communauté d'agglomération, quel ressenti avez-vous par rapport à ce que vivent actuellement les habitants, le confinement et puis aussi les autres entreprises du secteur ?
Écoutez, on a des entreprises qui sont mobilisées déjà pour faire tourner l'activité au quotidien. On a, nous, faut souligner par exemple dans notre territoire le contrat que l'on a avec l'entreprise Nicolin qui tous les jours assure la collecte des déchets. Alors on a dû là dégrader le mode de collecte et certains types de collecte ne se font plus, notamment par exemple les déchets végétaux. Donc ce qu'il faut demander à chacun, c'est quand on a des végétaux, c'est qu'on a peut-être un peu d'espace et donc de les garder dans son terrain le temps que tout redevienne dans des normes habituelle. Mais voilà, pour contribuer à l'aspect sanitaire du territoire, on a concentré sur les collectes de déchets ménagers et les déchets plastiques qui, eux, peuvent être aussi recyclés et donner aussi notre production derrière. Il y a des collectes qu'on ne peut plus faire pour aussi maintenir et garantir des conditions de sécurité, c'est-à-dire les meilleures pour le personnel qui intervient là-dessus. On a des entreprises qui sont mobilisées et qui jouent dans cet acte de solidarité aussi pour accompagner les plus fragiles. On a des entreprises qui sont mobilisées pour aussi accompagner le personnel soignant, et puis il faut solliciter un peu l'ensemble des acteurs économiques qui sont aujourd'hui au travail pour dire de pouvoir redémarrer rapidement et surtout souligner l'investissement des secteurs publics, parce que l'ensemble des services publics aujourd'hui sont mobilisés. En première ligne, les soignants, on le voit au niveau de l'hôpital de Lens notamment, mais on a beaucoup de services publics qui sont mobilisés. On voit la Poste sur le versement des prestations, on voit au niveau de la communauté d'agglomération par exemple avec ce dispositif d'aide, mais il n'y a pas que ça, on paye aussi encore l'ensemble des factures, on essaye de ramener aussi rapidement l'argent dans des prestations que l'on a utilisées au niveau de l'agglo, et puis solliciter aussi l'implication et l'investissement de l'ensemble des communes qui aujourd'hui sont en première ligne et qui pallient à différentes difficultés, parce que ça reste le service de proximité et le service public de proximité, mais qui n'a pas forcément non plus toutes les réponses dans ces possibilités réelles du quotidien. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'entreprises, de services publics qui sont mobilisés pour maintenir un tissu économique pour l'instant minimum, mais qui sera nécessaire pour redémarrer et redémarrer le plus rapidement possible.
Un mot sur les élections municipales, ça a des conséquences sur le fonctionnement de la CAL, puisque les élus communautaires le sont aussi, de par les résultats de ces élections. Comment fonctionne la CAL actuellement ?
Comme les communes, c'est-à-dire que le mandat a été prolongé pour les élus qui étaient en place avant les élections. Donc aujourd'hui, on est dans un nouveau dispositif, on découvre un peu au quotidien, mais on voit que il y a quand même une dynamique et une mobilisation qui est réelle, à la fois dans les communes et à l'agglo, parce que voilà, on gère cette situation avec les moyens qui sont ceux de nos collectivités, mais qui sont aussi avec un investissement fort des élus.
Alors, en tous les cas, Sylvain Robert, on va rappeler aussi pour les entreprises qui souhaitent justement bénéficier de cette aide dont on a parlé tout à l'heure, aide concernant évidemment les très petites entreprises, ils ont jusque fin avril, c'est ça, pour déposer leur dossier.
Ouais, alors aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on a limité à fin avril parce que vous savez que on a logiquement la période de confinement qui s'arrête dans 10 jours. On verra si c'est prolongé ou pas. Donc voilà, on ajuste aussi des dispositifs. Vous voyez, on fait en fonction des contraintes et des informations dont on dispose. Donc si bien évidemment, si le confinement est prolongé, on décalera et on fera évoluer le dispositif, parce que là aussi, c'est au moment du redémarrage qu'on aura besoin de cette aide.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sylvain Robert. Je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération de Lens-Clivain et maire de Lens. Merci à vous.
Merci à vous, bonne fin de journée.
Et on termine cette émission Savoir Plus avec une initiative solidaire effectuée par un Fab Lab de Bruay-la-Buissière Indelab. Les membres de ce Fab Lab ont décidé de fabriquer gratuitement des visières de protection à destination des personnels soignants des environs. Kevin Fumry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur numérique au sein d'Indelab à Bruay-la-Buissière. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Indelab, qu'est-ce que c'est ?
Alors Indelab, c'est ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc en bon français, on pourrait appeler ça, on va dire, un centre de fabrication numérique où en fait le but est de mettre à disposition des machines-outils telles que l'imprimante 3D, la découpeuse laser, la découpeuse vinyle ou des outils aussi classiques pour que tout le monde y accède. Que ça soit du simple étudiant à l'entrepreneur, au professionnel, au particulier, au petit bricoleur ou des choses comme ça.
Alors comment ça se passe pour vous le confinement ? Vous vous êtes installé dans l'atelier d'Indelab ou vous avez ramené des machines chez vous ?
Alors on a ramené une partie des machines chez nous. Les imprimantes 3D sont chez nous en fait du coup. C'est avec les imprimantes 3D avec lesquelles on avait commencé à imprimer du coup les visières de protection pour les personnels soignants. Et depuis hier, en fait, on alterne dans les locaux du Fab Lab pour découper des visières à la découpeuse laser, qui permet d'aller un peu plus vite en termes de découpe.
Comment se porte l'équipe d'Indelab actuellement ?
Bah, tout va bien pour l'instant. On s'occupe, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec les commandes qui tombent concernant les visières. On a vraiment pas mal de demandes, donc on ne voit pas trop passer nos journées. Tant mieux, parce que du coup ça faisait une dizaine de jours où on tournait un petit peu en rond, où on cherchait comment être utile un peu par rapport à cette crise, et on a trouvé.
Alors comment est venue l'idée justement de la fabrication des visières pour le personnel médical ?
Alors c'est venu depuis le début un peu du confinement. Je suis en contact avec un éducateur du foyer d'accueil médicalisé de Viternes, avec qui on travaille toute l'année, avec des ateliers 3D, avec les résidents, pour qu'ils créent de la décoration, par exemple, pour leur marché de Noël, ou pour des choses, pour s'adapter à la vie courante. Et depuis le début de la crise, je suis en contact avec Julien, où on communique sur ce qui était faisable, ce qu'on pouvait apporter comme besoin. Et en fait, on a trouvé cette visière-là, sur Internet, donc c'est un fichier open source, qui est déjà utilisé dans toute la France et dans tout le monde entier. Et, en fait, Julien m'a demandé d'en créer quelques-uns pour qu'ils fassent un test là-bas dans leur foyer. Et ça a porté ses fruits parce que c'était assez utile pour eux. Donc, il m'a repassé de commande. Et à partir de là, on a posté sur les réseaux sociaux qu'on était capable de produire des visières. Et là, on a été pas mal sollicité pour des demandes.
Alors, actuellement, vous parvenez à fabriquer 100 exemplaires par jour, un véritable exploit. Comment vous vous êtes organisé pour les commandes et les livraisons ?
Alors, petite mise à jour. Depuis hier, on arrive à augmenter les demandes, du coup, à augmenter la fabrication avec la découpeuse laser. Donc en fait maintenant on arrive quasiment à 250 voire 300 visières par jour.
Ah oui.
De fabrication. Donc en fait en impression 3D du coup c'est créé chez nous. Du coup on les crée au fur et à mesure de la journée et en découpeuse laser en fait on vient au Fab Lab pour les créer, on reprend chez nous après. On désinfecte après forcément parce qu'on travaille pas dans des milieux on va dire médicaux, des créations on va dire classiques de produits médicaux, et par contre on re-signale à toutes les personnes qui viennent chercher leur commande de bien aussi re-nettoyer une fois arrivé dans l'établissement, forcément parce que les échanges de microbes peuvent être un peu dangereux.
Alors il me semble que vous faites aider également par une personne d'une autre structure hein, pour les commandes, la prise de commande notamment.
Ouais, c'est ça, on a délégué on va dire la prise de commande à Maggie de l'église du Boucafé, donc c'est elle qui prend toutes les commandes, les contacts et qui gère en fait toute la partie logistique de cette petite aventure de fabrication de visières. Et comme ça, nous, ça nous permet avec Nabil, mon collègue, de se concentrer uniquement sur la fabrication.
Et tout cela, si j'en crois à la Voix du Nord, gratuitement, vous prenez tout en charge.
Ouais, voilà. C'était notre volonté depuis le démarrage de faire quelque chose d'utile, on va dire, un peu de solidarité par rapport à cette crise. Donc on a décidé que la société, du coup que Indelab allait porter la charge entièrement des visières. Alors après on cherche aussi des dons. Oui. Par exemple les personnes de centres hospitaliers ou de collectivités qui nous demandent des masques, pas des visières. On essaie de demander les matières premières qu'ils pourraient nous apporter, comme par exemple en fait ce qu'il y a devant les visières, donc ce qui protège le visage. On utilise des pochettes de reliure, de dossiers, donc les pochettes transparentes. Donc ça, généralement, tout le monde en offre dans les établissements.
D'accord.
Donc, en fait, on récupère aussi des dons pour la fabrication.
Alors, combien de visières ont été livrées jusqu'à présent ?
Hier, on était à peu près à 800, je pense, de mémoire. Ça a dû augmenter un petit peu aujourd'hui. On doit être aux alentours. Ouais, on va presque passer les 1000, je pense, aujourd'hui.
Donc déjà 1000 visières de livrées. Alors d'où proviennent les demandes actuellement?
D'un peu partout. Donc aussi bien des hôpitaux, donc que ça soit le centre hospitalier de Béthune-Boué, mais le centre hospitalier aussi d'Arras, de R sur la Lys. Après, on a des secteurs aussi plus du médico-social, du monde du handicap, des libéraux, des infirmières à domicile, des kinés, des dentistes, enfin d'un peu partout.
Alors, votre Fab Lab fonctionne essentiellement sur le Béthunois et le Bruésie. Lorsque des demandes proviennent d'autres secteurs comme Lens ou Arras, vous vous renvoyez vers d'autres Fab Labs. Est-ce que justement, à l'heure d'aujourd'hui, d'autres Fab Labs ont suivi la même démarche que vous?
Alors, en tant que Fab Lab, je peux pas trop vous dire, je me suis pas renseigné là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des petits groupes de ce qu'on appelle des makers, en fait, qui fabriquent un peu chez eux à l'aide d'imprimantes 3D ou des choses comme ça. Donc, on est en contact avec des groupes, par exemple, sur Beuvry aussi, sur Lens, sur Arras aussi, par exemple, où que la demande est trop loin de chez nous pour éviter, parce qu'on est quand même en période d'épidémie, donc pour éviter les déplacements de personnel, on essaye de délocaliser ces demandes, quoi.
Et vous estimez à combien de makers à peu près qui ont suivi votre démarche là, mais sur le territoire à peu près, hein?
Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Il y a des groupes sur Facebook, mais il y a vraiment beaucoup de groupes. Mais je pense que rien que sur le secteur, sur le secteur de Béthune-Bourré, je pense qu'il y a au moins une bonne grosse dizaine de makers qui fabriquent chez soi.
Si on souhaite passer commande, comment fait-on? J'imagine que vous fournissiez en priorité certains clients.
Oui, voilà, on a décidé de. Alors, on est conscient que toutes les personnes qui travaillent, que ça soit dans les magasins, les caissières, dans les entreprises, les employés ou les ouvriers, ont besoin de visières, mais on a décidé de prioriser le personnel médical soignant et les structures médico-sociales. Dans un premier temps, une fois que ces personnes-là seront passées, si on est encore dans la crise et que les demandes, on est en capacité de répondre, on va dire, aux demandes de commerce, on essaiera d'y répondre aussi.
Très bien. J'imagine que vous avez dû forcément beaucoup vous adapter avec le confinement. Donc là, votre activité, elle est essentiellement cantonnée aujourd'hui à la fabrication de ces visières.
Oui, voilà. On passe nos journées à ça. De toute façon, notre activité s'était quasiment arrêtée. Nous, on fonctionne énormément avec les collectivités, les collèges, les associations, les centres de jeunesse. Et tous ces lieux-là, on va dire, d'accueil de groupe, ont fermé avec le confinement. Et donc, du coup, ont arrêté notre activité aussi.
Et j'imagine que vous réfléchissez aussi à l'après-confinement. Vous espérez pouvoir reprendre rapidement?
Je pense que, comme tout le monde, je pense qu'on espère reprendre une activité correcte assez rapidement. On va devoir attendre encore un petit peu, parce que nous, on fait vraiment de l'accueil de public. Donc je pense qu'on risque d'attendre encore un petit peu, mais oui, forcément, on mettra après les bouchées doubles pour redémarrer correctement.
Eh bien, merci beaucoup, Kevin Fumery, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médiateur numérique au sein d'un des labs à Bruay-la-Buissière et que vous avez franchi quasiment la barre des 1000 exemplaires de livrés concernant ces visières destinées en priorité au personnel médico-social. Merci à vous.
Merci à vous.
Ma passion, ma région, ma passion.
Voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Plus. À bientôt.